Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment tu vas? Je suis trop contente de te retrouver. Encore, oui. J'espère que tu vas bien. J'espère que les 20 premiers jours de ton ramadan se sont bien passés. J'espère qu'il se passe bien. Et j'espère que tu es prête ou prêt à vivre les 10 dernières nuits et 10 derniers jours en fait de ce ramadan. Et oui, c'est déjà la fin. Autant sur les 10 jours du milieu, je sais pas toi, mais moi j'avais l'impression que c'était un peu dur, qu'on devait ramer, et là j'ai l'impression que ça va s'accélérer d'un coup et que je verrai même pas la fin du ramadan arriver en fait. Et ça me rend un peu triste. Franchement, c'est un mois qu'on attend toute l'année, qu'on prépare toute l'année. Pendant 1 ou 2 mois avant, on est là, on est tout excité. Vraiment, on le prépare réellement. Et parfois aussi, ces préparations-là se passent pas forcément comme prévu. Et on se retrouve au dernier tiers du ramadan à se dire où est-ce que j'en suis en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire? Est-ce que je me suis améliorée? Est-ce qu'il y a eu du changement au final? Eh bien, écoute, toutes ces questions-là, si tu veux bien, on va se les poser ensemble. Petit spoiler, je pense, au vu de la longueur de mon podcast, là, que comme je le vois, que je le ferai en fait en 3 parties parce que j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Voilà, je te laisse avec le podcast. Donc, la dernière fois, en fait, sur le dernier podcast, on a pu voir ensemble ce que c'était globalement. On a pu aborder le thème de la convivialité, le partage, le vivre ensemble, etc. Et celui de la découverte. Et je t'avais dit et répété que vraiment ce mois, c'était un mois de pépite, que c'était en lui-même une pépite. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si pépite dedans, en fait? Eh ben écoute, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps que ça. On va commencer, Inch'Allah, Bismillah. Donc, premier point avec lequel je vais commencer, c'est le fait que pendant ce mois de Ramadan, toute cette partie, ces 2 tiers que tu as vécu et ce tiers qui arrive, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées, et les shayatins, les diables, sont enchaînés. Donc les 8 portes du paradis sont grandes ouvertes pour toi, les 7 portes de l'enfer sont bien fermées à clé, et les diables sont enchaînés. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend un moment pour méditer là-dessus, déjà, outre le fait qu'il y ait 8 portes du paradis et 7 portes de l'enfer. Déjà, ça te donne un petit indice sur le fait ce que je te raconte en fait tout le temps. La miséricorde d'Allah, la belle et infinie miséricorde d'Allah. C'est un indice de plus sur le fait que il te veut vraiment auprès de lui. Il te veut auprès de lui dans son paradis. Il te donne une porte de plus pour entrer au paradis que pour entrer en enfer. Ce hadith, il veut aussi dire que si qadar Allah, donc qadar Allah, c'est en gros si c'est dans ce que Allah nous a destiné, on meurt pendant ce ramadan, pendant le mois de ramadan, t'imagines mourir à une période où les portes de l'enfer sont fermées. Ça veut dire que ça t'est pas destiné, c'est pas pour toi. Allah ne veut pas l'enfer pour toi. Il t'a ouvert les portes du paradis. Il veut que, s'il reprend ton âme, il la reprenne de la plus belle des manières en t'ouvrant les plus belles portes. Et vraiment, c'est un signe mais énorme de la miséricorde d'Allah. Et c'est aussi, ça représente en fait ce que ce moi doit être pour nous, ce que ce moi doit vraiment représenter pour nous dans nos esprits et dans nos cœurs. L'objectif ultime, le paradis. Et s'éloigner de l'enfer. Et qu'Allah nous facilite. Amin. Et d'ailleurs, à ce propos, Il y a un deuxième hadith qui dit certes, Allah a désaffranchi chaque jour et nuit du mois de Ramadan, et certes, chaque musulman a chaque jour et nuit une invocation exaucée. Donc on va d'abord se concentrer sur la première partie de ce hadith, qui est que Allah a désaffranchi chaque jour et nuit du mois de Ramadan. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc dans l'explication du hadith, dans l'interprétation du hadith, c'est expliqué en gros que quand on parle ici d'affranchis, c'est des personnes qui sont affranchies de l'enfer. Des personnes pour qui Allah a interdit l'enfer. T'imagines, genre, être une de ces personnes-là, t'es mais plus que VIP. Et chaque jour, Allah choisit des personnes parmi les persévérants et les persévérantes pour avoir l'enfer qui leur est interdit. Il t'est interdit d'entrer en enfer. C'est incroyable. Et vraiment, qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ces personnes-là. Amin, amin, amin. Et en ce qui concerne la deuxième partie du hadith, je la reprendrai tout à l'heure, inshallah. Et en revenant sur le premier hadith, le fait d'avoir les shayatines qui sont enchaînées, ça fait que c'est vraiment le mois de toutes les possibilités, de tous les espoirs, de toutes les facilités. Allah veut vraiment pour nous une facilitation et il ne veut pas pour nous une difficulté. Et Allah nous le dit lui-même dans le Coran, donc dans sourate Al-Baqarah, donc la vache, la deuxième sourate, verset 185. Il nous dit « Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ». Donc ça veut dire Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et d'ailleurs, je vais te lire le verset en entier. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqani faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Je vais aussi te lire évidemment la traduction rapprochée, donc le sens rapproché de ce verset. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la guidée et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant. Donc là, normalement, ça a dû faire un peu de tilt. Ça a dû te dire Ah, mais j'ai déjà entendu ça quelque part, peut-être dans le premier épisode, par rapport au. Exemptés du jeûne, les voyageurs et les personnes malades notamment. Donc Allah vraiment nous assure que ce qu'il veut pour nous, ça n'est pas la difficulté, c'est la facilitation. Donc il nous facilite dans des situations où il sait qu'on serait en difficulté autrement par rapport au jeûne et par rapport à tellement d'autres choses. Et je te le disais tout à l'heure, le fait que les shayatines soient enchaînées, c'est une facilité. C'est une occasion à saisir à pleine main. Tu peux même la saisir de tout ton corps, vraiment. Parce que c'est vraiment le mois où tu peux tout essayer, où tu peux tout faire, où tout ce qui te paraissait difficile pendant les autres mois de l'année, bah là c'est beaucoup plus facile. Après, de toute manière, il reste toujours une part de difficulté. Je te dis pas que tout va changer du jour au lendemain en un claquement de doigts, pas du tout. Parce qu'on doit quand même se battre contre son nafs. Et ce que les shayatins faisaient avant le mois du Ramadan, et ce sur quoi ils avaient des bases solides, ils sont encore dessus. Mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils n'arrivaient pas à faire déjà avant. Donc les choses sur lesquelles tu tenais encore un peu, où t'étais à un poil, un cheveu de lâcher, ils peuvent pas. Ils peuvent pas t'attendre dessus. Donc c'est sur ces choses-là qu'il va falloir faire le boulot deux fois plus, trois fois plus, dix fois plus. Et pareil, ce point-là, je le reprendrai tout à l'heure, Inch'Allah. Tu verras quand on va parler de nos objectifs, de qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que oui, ça n'est pas trop tard, ça n'est pas parce qu'on est sur le dernier tiers de ce mois de Ramadan que c'est trop tard, que tout est fini, que c'est. J'ai pas réussi mes objectifs, bah, de toute façon, c'est trop tard, là, c'est la fin. Pas du tout. Au contraire, bien au contraire, et tu verras. Et ce mois-là, c'est aussi un mois, le mois vraiment des invocations. C'est le mois comme je te le disais, de toutes les possibilités, et ce, entre autres, par les invocations. Vraiment, je vais te présenter toutes les situations où les invocations sont exaucées, et tu verras que, en fait, presque à n'importe quelle minute, tu pourrais faire n'importe quelle invocation, et elle aurait, tellement d'impact par rapport aux autres mois, par rapport aux autres périodes. Donc vraiment, saisis ta chance. Tout à l'heure, je te disais, on va se concentrer sur l'autre partie du hadith tout à l'heure. Eh bien, c'est maintenant. Donc la deuxième partie, c'était, et certes, chaque musulman a chaque jour et nuit une invocation exaucée. Donc déjà, là, on part sur le fait que pendant tout le mois de Ramadan, chaque musulman a chaque jour et nuit une invocation exaucée. Ça fait déjà au moins 30 invocations. Si tu en fais 30 différentes, ça fait 30 invocations différentes. Ou si tu en fais une que tu répètes, 30 fois plus de chances qu'elle soit exaucée. Après, il faut savoir une chose, hein, et je pense que toi comme moi le savons, c'est pas, elles sont pas exaucées n'importe comment, dans le sens où tu peux pas dire j'aimerais que, ya Allah, j'aimerais qu'un bonbon tombe du ciel maintenant tout de suite. Non. C'est pas des vœux, c'est pas comme dans Aladdin et le génie, tu demandes quelque chose et elle est tout de suite exaucée. Faut pas hésiter, par exemple, à demander des choses spécifiques. Mais Allah ne te donnera que ce qui est bon pour toi. C'est-à-dire que si tu demandes à ce que, je sais pas moi, une pierre te tombe sur la tête, non, Allah ne voudra jamais ça pour toi. Et si tu demandes quelque chose de bien et que c'est bénéfique pour toi, Allah te l'exaucera. Il n'attend que le fait que tu viennes lui demander. C'est un des plus beaux actes d'adoration que d'invoquer Allah, que de l'invoquer continuellement, encore et encore. Et en fait, de s'en remettre à lui pour que ces choses-là prennent place et se concrétisent. Et que tu demandes en fait que les choses que tu veux tellement, 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 pour lesquelles tu as œuvré, se concrétisent. Tu reviens vers lui, tu sais que rien ne se fera sauf si lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le veut. Donc en fait, tu reviens continuellement et perpétuellement vers lui. Et c'est ça qu'il veut. Il veut que tu reviennes vers lui pour qu'il puisse te donner tout ce dont tu as toujours rêvé et plus encore. Mais nous, les humains, on a aussi tendance à pas être très patients. D'ailleurs, la patience, ça peut se demander dans les invocations. Et tu verras clairement la différence quand tu demanderas de la patience à Allah et que tu le demanderas avec sincérité. Tu verras clairement la patience arriver. La patience face à l'épreuve, la patience face à l'attente de quelque chose que tu as demandé. Et parfois aussi, Allah veut que tu l'invoques encore et encore et encore et encore. De un, pour voir ta sincérité. Est-ce que tu veux vraiment, réellement cette chose? Quand tu œuvres pour une chose que tu veux réellement, tu œuvres et tu ne lâches pas. Et en plus, comme tu as œuvré, tu seras mais tellement fier de toi aussi pour les efforts que tu auras fournis. Et Allah te donnera la chose, mais d'une beauté et d'une simplicité. Hop. C'est comme, ça me rappelle le récit d'un homme, un vieil homme qui était arrivé dans une ville. Il ne connaissait personne là-bas. Et c'était l'imam Ahmed, rahmallah. Mais c'était un homme très humble aussi. Et il n'était pas du tout en vue de sa personne. Il ne se présentait pas comme étant le grand imam Ahmed, malgré tout ce qu'il représente, tout ce qu'il représentait, cet homme-là, Allah rahmahu. Et il est arrivé dans cette ville. Il arrive devant une mosquée et il se dit, bah, je vais passer la nuit ici du coup, parce que j'ai nulle part où aller, je connais personne, voilà. Et en fait, l'homme qui gardait la mosquée l'a jeté dehors, tout simplement. Il a dit, ah non, non, tu restes pas ici. Et bah, le vieillard s'est fait jeter comme une vieille chaussette dans la rue. Il faisait froid. Et il me semble aussi qu'il pleuvait ou qu'il neigeait, je ne sais plus. Et il y a un homme, un boulanger, qui avait assisté à cette scène-là. Et il s'est dit, je vais accueillir le vieil homme chez moi. Et par toute bonté, il ne savait pas qui c'était. Par toute bonté, il l'a accueilli chez lui. Il l'a accueilli dans sa boulangerie et il lui a dit « Écoute, si tu veux bien, tu dors avec moi. Là, dans la boulangerie, je pense qu'il devait avoir une pièce à côté. » Et il lui a dit j'ai pas beaucoup plus que ça, mais voilà. Comme on dirait au Maroc, qbel ali. Donc accepte ça de moi, même si c'est pas grand-chose. Et l'imam Ahmad l'a observé faire ce qu'il faisait. Donc il a rangé sa boutique, il l'a vu prier, il l'a vu invoquer Allah encore et encore et encore et encore. Et il disait aussi beaucoup Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et l'imam lui a demandé si le fait de faire ces invocations-là avait changé quelque chose dans sa vie. Si ça avait eu un impact, s'il voyait cet impact-là. Et l'homme, le boulanger, lui dit « Oui, oui, Alhamdulillah, Allah a exaucé toutes mes invocations, sauf une. » Et il lui demande « Quelle est cette invocation qu'Allah n'a pas exaucée ?» Et le boulanger lui a dit « Ça fait des années que je demandais à Allah de pouvoir rencontrer un jour le grand imam Ahmed. Et il ne m'a jamais exaucé celle-ci. » Et subhanallah, Allah lui avait envoyé l'imam Ahmed jusque devant chez lui. Et il a pu, en plus de le rencontrer, l'accueillir après qu'il ait été jeté d'une mosquée dans la rue, froide, la nuit. Donc il fait une bonne action envers celui qu'il a toujours voulu rencontrer. Et le timing d'Allah est toujours parfait. Ne te demande jamais pourquoi Allah ne répond pas à mon invocation. Ça fait longtemps que j'attends. Parce que si elle n'est pas encore arrivée, c'est pour une raison bien précise. Toi, tu ne le sais pas encore, mais Allah le sait. Et Allah sait pourquoi il te fait patienter encore pour ça. Ça peut être pour diverses raisons. Et dans la patience en elle-même, il a de nombreuses récompenses. Donc, Allahu a'lam, patiente, patiente, patiente. Et aie confiance aveuglément en Allah. Et dans le fait qu'il ne te veut pas la difficulté, il te veut la facilité. Et il te veut la facilité, par exemple, imaginons, par la patience que tu auras accumulée, il t'effacera tous tes péchés. Allahu a'lam. Par cette patience-là, tu vas pouvoir avoir la balance qui va pencher plus d'un côté que de l'autre. Si tu n'avais pas eu cette patience, peut-être que ton sort aurait été différent dans l'au-delà, ou dans cette dunya. Parfois aussi, ce qu'on demande, c'est quelque chose de tout fait, tout prêt. Et en réalité, parfois, la difficulté et l'épreuve même peut être en elle-même la solution. Tu apprends tellement de choses quand tu es en difficulté, quand tu es en épreuve. Sur toi-même, tu développes des skills, vraiment, tu apprends à connaître une autre personne que tu ne pensais même pas être toi-même. Et en fait, tu développes des outils que tu pourras réutiliser plus tard. Et c'est toi qui les développes. Alors que si on te donne le meuble IKEA tout monté, tu ne sauras pas le remonter ni le démonter. Alors que si tu as les outils et que tu apprends à le monter, tu sauras monter n'importe quel autre meuble. Mais là je m'étale un peu beaucoup sur... sur le thème de l'épreuve, je voulais en faire un podcast dédié, Inch'Allah. Donc, reste sur le qui-vive, reste informé. Ça viendra bientôt, Inch'Allah. Donc, tout ça pour dire que les invocations ne sont pas repoussées à plusieurs occasions. L'une d'entre elles, donc, on disait, simplement pendant le mois de Ramadan, chaque musulman a chaque jour et nuit une invocation exaucée. À quelle autre occasion est-ce qu'on a des invocations exaucées ? Bah quand on jeûne. Il y a un hadith qui dit que l'invocation du jeûneur n'est pas repoussée. Au même titre, donc dans le hadith, au même titre que celle du père, donc le père pour son enfant, et celle du voyageur. Et il y a aussi l'invocation au moment de la rupture du jeûne, au même titre que le gouverneur juste a son invocation qui n'est pas repoussée, et que celui qui subit une injustice n'a pas son invocation repoussée. Et je pense que tu as déjà dû entendre parler de la prière de l'opprimé, l'invocation de l'opprimé. L'invocation de l'opprimé concerne toute personne, qu'elle soit musulmane ou mécréante. Et entre cette invocation Et Allah, il n'y a pas de voile. Elle passe directement. Elle a le même titre donc que l'invocation du gouverneur juste. Donc ça passe comme une invocation sans voile entre toi et Allah. Et donc l'invocation du jeûneur quand il rompt son jeûne, au moment de la rupture du jeûne, c'est pareil. Donc c'est vraiment des moments phares. Et même en dehors de ça, en dehors du mois de Ramadan, tu vois par exemple, pendant le dernier tiers de la nuit, le moment où Allah est au plus près de nous, le moment entre la prière de l'Asr et la prière du Maghrib. Et ces moments-là, spoiler alerte, ils sont aussi présents pendant le Ramadan. C'est-à-dire que pendant ces moments-là, il faut multiplier nos invocations. Vraiment, on peut faire des combos. Imaginons que il pleuve, la prière sous la pluie, l'invocation sous la pluie n'est pas repoussée. Il pleuve pendant un mois de Ramadan. Tu es musulman et donc tu as chaque jour et nuit une invocation qui est exaucée. Tu jeûnes, combo, avec la pluie, avec le fait que ce soit le moment entre l'Asr et le Maghrib, et tu continues l'invocation jusqu'au moment de couper le jeûne. Et là, ça passe direct en Wi-Fi, sans voile entre toi et Allah. Et il y en a plein, plein, plein des situations comme ça. Et vraiment, le mois de Ramadan, c'est vraiment si... Sur cet aspect-là, tu pourrais le résumer comme le mois des invocations. Il faut invoquer, 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 invoquer. Et évoquer Allah. Donc toutes ces évocations... Et invocations se multiplient entre elles en fait. Et elles multiplient aussi tes chances d'avoir tes autres invocations acceptées. Vraiment, moi, pour moi, c'est le mois de Ramadan, c'est un cocktail où t'as tous les combos, comme dans les jeux, tu vois, genre t'as des fois 2, fois 3, fois 5, fois 10, fois 1000. Là, on sait même pas par combien c'est multiplié. Et c'est des actes d'adoration. En plus du fait que tu demandes des choses pour toi, pour ta famille, pour ton boulot, pour que sais-je, c'est un acte d'adoration qu'Allah compte comme comme tel en fait. Et un acte d'adoration, forcément, tu prends des hasanat pour ça. Et une hasana, donc une bonne action, est multipliée par 10. Vraiment, le compteur, il ne s'arrête pas de monter. Alhamdulillah. On a tellement de situations où tu peux exploser les compteurs, clairement. On pourrait presque en venir à se dire « Oui, mais d'accord, mais au final, tout ça, ça peut pas être gratuit, c'est trop beau pour être vrai, il y en a beaucoup. » Eh bien, oui et non. La seule chose qu'Allah nous demande, c'est qu'on lui réponde. Dans Sourate al-Baqara, Allah nous dit « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ » Donc c'est Sourate al-Baqara, verset 186, et le sens rapproché. « Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de l'appelant quand il m'appelle, donc qu'il me réponde et qu'il croie en moi, afin qu'il soit guidé. » Et l'appel d'Allah, qu'est-ce que c'est? Eh oui, l'appel à la prière. La prière, c'est vraiment le minimum, la moindre des choses qu'on pourrait faire. Et si tu veux, tu peux te référer, j'ai fait un podcast sur ça, justement. Tu peux aller l'écouter si tu en as envie. C'est vraiment, mais vraiment le minimum qu'on puisse faire. Et il y a tellement rien que dans la prière. C'est même pas un peu une punition, c'est aussi un cadeau. Et il y a tellement de bienfaits pour nous. On peut pas passer à côté de ça. Et j'aimerais tellement être exhaustive sur toutes ces pépites. Malheureusement, le temps m'est compté, donc je ne peux pas. Et comme j'ai appris grâce à Zainab, à être Zainab de Coran de ton cœur, à être respectueuse du temps des autres... Je ne peux pas manger de ton temps à ce point. Et donc, je vais essayer de globaliser, en fait, tout ce qui me paraît très, très important et impactant. Et donc, pourquoi on a toutes ces récompenses pendant ce mois? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce mois? Pourquoi ce mois-ci et pas un autre? Comme je te l'ai dit dans l'introduction de la première partie, c'est le mois de la révélation du Coran. Et ce Coran, qu'est-ce qu'il a comme impact sur ce mois-là et sur tout le reste, en fait? J'avais vu une vidéo... qui m'avait beaucoup marqué. Et depuis, j'ai cette réflexion-là que j'essaye d'appliquer, en fait, au quotidien. Aussi pour me motiver, parce que Je suis là en train de te motiver, mais la première personne que je motive avant tout, c'est moi-même. En fait, je suis la deuxième voix qui me parle. Je me parle de l'extérieur. Et donc, pour me motiver notamment à avoir un lien avec ce Qur'an, à perpétuer ce lien et à le maintenir coûte que coûte. Et d'ailleurs, sur un des podcasts de Coran de ton cœur, il me semble que c'était le deuxième de ce mois de Ramadan, donc les versions courtes, les mini-podcasts, elle expliquait un peu ce lien qui est une corde entre nous et Allah. Et cette corde, c'est le Coran, auquel on doit s'accrocher coûte que coûte. Le Coran a rendu tout ce qui l'entourait, tout ce qu'il a touché, meilleur. Le meilleur des mois de l'année, c'est le mois de Ramadan, parce que c'est le mois pendant lequel le Coran a été révélé. Le meilleur des hommes sur cette terre, qui est existé sur cette terre, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'homme à qui le Coran a été révélé. Le meilleur des anges, celui qui a le plus haut degré auprès d'Allah, c'est l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam, et c'est l'ange qui a descendu la révélation du Coran à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le meilleur des anges. Laylat al-Qadr, la nuit du destin, dont je te parlerai là dans quelques instants, inshallah, c'est la meilleure des nuits. C'est une nuit qui vaut plus que 1000 mois. 1000 mois, j'ai calculé tout à l'heure, ça fait 83,333 années. Oui, 83 ans. Une nuit vaut mieux que 83 ans. Et cette nuit pendant laquelle a été révélé le Coran, c'est la meilleure des nuits. Donc, à ton avis, quel effet pourrait avoir ce Coran sur toi si tu te l'appropries, que tu le lis, que tu tisses un lien avec, que tu l'apprends, que tu le récites, vraiment que tu entretiennes ce lien avec ce Coran? Tu ne peux que devenir une meilleure personne. Ce Coran vraiment améliore tout ce à quoi il touche, tout ce qu'il touche, les cœurs, les yeux, les mains, la foi. Tu deviens forcément une meilleure femme, un meilleur homme, en tissant un lien avec ce Coran, en t'accrochant à ce Coran, en l'apprenant, en le lisant, en parlant, en apprenant tout ce qui l'entoure, les tafsirs, donc ça c'est les exégèses, les explications en gros des sourates. Vraiment, accroche-toi à ton Coran. Et si je dois te rediriger vers une seule personne pour ça, et je t'ai déjà redirigé vers cette personne et ses podcasts maintes et maintes fois, c'est vraiment Zainab, de Coran de ton cœur. Vraiment, cette femme me touche énormément. Elle te fait vraiment mais ressentir des choses que tu n'as jamais ressenties de ta vie par rapport à ce Coran. Tu te dis, mais il était là depuis tellement d'années à côté de moi et je n'y ai que très peu accordé d'importance et de temps. Et cette femme, vraiment, alhamdoulillah, c'est une ni'ma, un bienfait qu'Allah a mis sur nos chemins. Et cette femme a mis à disposition sa science pour nous faire aimer ce miracle d'Allah d'une manière tellement simple et tellement douce. Et je pourrais en parler toute la journée, vraiment. Donc si tu as une seule chose à faire après ce podcast, ou même avant, c'est vraiment te rediriger vers ça, vers son contenu, qui est incroyable. Vraiment, là j'en parle et je suis très très émue. Et vraiment, mashallah, Alia, et qu'Allah la préserve et qu'il la rétribue grandement. Amin. Et Allah, nous connaissant les difficultés qu'on a à maintenir ce lien, à s'accrocher à cette corde, il nous a donné des facilitations, encore une fois. Le fait de lire une seule lettre du Coran, ça équivaut à une bonne action, et une bonne action est multipliée par 10. Donc ça équivaut à 10 bonnes actions. Une lettre du Coran. Il y a 114 sourates, dont certaines avec 3 ou 4 versets, et d'autres avec plus de 280 versets. Et il y a des versets qui font toute une page, donc tu peux t'imaginer le nombre de lettres. D'ailleurs, je vais le chercher. Eh bien, il y a 335 288 lettres lexicalement, 323 071 lettres graphiquement. Je ne sais pas exactement ce que c'est la différence, mais il y a plus de 300 000 lettres dans ce Coran. 300 000 fois 10, ça te fait au minimum 3 millions de hasanat. si tu lis une fois le Coran. Et donc ça, c'est quand tu le récites et que tu le lis en dehors du Ramadan et en dehors de Layat al-Qadr. Donc je te laisse faire les calculs. Tout ce que tu fais pendant Layat al-Qadr, qui se situe dans ces 10 derniers jours, est en fait multiplié de manière à ce que ce soit comme si tu l'avais fait pendant plus de 83 ans. Si par exemple, tu lis Sourate l'Ikhlas, donc قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Si tu lis cette sourate trois fois, parce qu'elle est considérée comme étant, comme représentant en fait en récompense un tiers du Coran, et regarde comment elle est courte. Quand tu la récites trois fois, c'est comme si tu avais récité tout le Coran. Donc tu la récites trois fois, chaque nuit, des 10 nuits de ces 10 derniers jours en fait, c'est comme si tu avais récité le Coran en entier pendant 83 ans et plus. On va arrondir à 84 ans. Comme si tu l'avais récité pendant 84 ans. Pour chaque petite lettre que tu récites, pour chaque verset, pour chaque surah, tu prends tous ces avantages-là et tu multiplies, tu multiplies, tu multiplies. Donc c'est vraiment les 10 nuits pendant lesquelles il faut faire des efforts. Il ne faut surtout pas relâcher ses efforts. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut se réveiller. C'est à ce moment-là où tu dois te dire « Ok, c'est ma chance, c'est maintenant ou jamais. Il faut que je multiplie tous mes actes d'adoration. Il faut que je multiplie mon lien avec mon Coran. Il faut que je multiplie la lecture du Coran, les évocations, les invocations d'Allah. Le fait de faire de l'istighfar, donc demander pardon à Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ça, tu le multiplies. Tu le fais pendant la Laylat al-Qadr. C'est comme si tu le faisais pendant 84 ans. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est une dinguerie. 84 ans d'adoration en une nuit. Une nuit, qu'est-ce que c'est? Une nuit, c'est rien du tout. Tu pries 2 rak'at, 2 unités de prière. Pendant cette nuit-là, c'est comme si tu avais prié pendant 84 ans. Et il y a aussi une invocation qu'il est super important de répéter pendant ces 10 dernières nuits. En fait, c'est ces 10 derniers jours en règle générale. Et c'est Allahumma innaka afuun tuhibbu l'afwa fa'fu anni. Et ça veut dire Oh Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Et tous ces actes-là, et je te le dis, mais je pense que tu t'en doutes, toutes ces choses-là, tous ces actes d'adoration doivent être faits avec sincérité. Avec la sincérité la plus totale. Avec l'espoir et l'envie qu'Allah te récompense pour ces choses-là. Donc tu le fais avec cette intention-là. Qu'Allah va te récompenser avec cette attente de la récompense et Allah te récompensera. Et d'ailleurs, quand tu cherches cette récompense, quand tu fais tout ça réellement pour Allah, dans ton intention, il y a un hadith qui dit que celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 ans. C'est-à-dire que c'est la distance parcourue en 70 ans. Et il te récompensera doublement parce que non seulement tu auras la première rétribution, donc la première récompense, et en plus, il te dit qu'il t'efface tes péchés précédents. Subhanallah. Et ça, c'est repris dans plusieurs hadiths que je te mettrai encore en description. Tous les hadiths et, toutes les références, je te les mettrai, inshallah, en description. Je vais essayer d'être la plus exhaustive possible. Et si j'arrive pas à être exhaustive, je te mettrai les sites sur lesquels j'ai été puiser ça. Et si c'est des sourates, donc des sourates, je te mettrai... Je te mettrai les références avec le numéro de la sourate et le verset, le numéro du verset. Et de toute manière, tout est accessible. Donc si tu veux aller revérifier les traductions, etc., libre à toi. Et au contraire, je t'y encourage grandement. Et depuis tout à l'heure, en fait, tu m'entends dire Laylat al-Qadr, donc la nuit du destin, les 10 dernières nuits. Oui, mais Est-ce que c'est les 10 dernières nuits ou la nuit? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Ok. Je sais, j'ai pas bien expliqué. Mais en gros, la nuit du destin se trouve parmi les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les nuits dites impaires. Et Allah et son prophète savaient quelle était cette nuit, laquelle exactement c'est, mais pour faire en sorte que les musulmans, les musulmanes, fassent un effort constant pendant les 10 dernières nuits qui sont les plus difficiles parce que c'est le dernier tiers, c'est la dernière ligne droite, qu'ils fassent un effort constant d'adoration et multiplient encore plus les adorations, eh bien en fait on n'a pas voulu donner, Allah n'a pas voulu nous donner cette information exacte de nous dire c'est cette nuit-là. Parce qu'en fait, au final, on va relâcher tous nos efforts et ne pas faire le moindre effort pendant les 9 nuits. Et une seule nuit, on va se lever et demander pardon à Allah, et l'invoquer, et lire le Coran, et prier, et faire tous ces actes d'adoration-là. Mais en fait, toutes les autres nuits, on l'aura oublié. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est qu'on soit constant dans nos efforts et qu'on cherche la récompense en mettant un peu dans tout ça, dans toutes ces nuits-là. Et pendant ces nuits-là aussi, multiplie tes aumônes. Si tu donnes 1 euro, c'est comme si tu donnais 1 euro pendant 84 ans. 30 000 euros, voilà. Tu viens de donner 30 000 euros. En fait, c'est comme si tu avais donné 30 000 euros. Tu donnes 1 euro pendant la nuit du destin, c'est comme si tu avais donné 30 000 euros. Tu donnes un repas, t'as donné 30 000 repas. Etc., etc. Tout est multiplié. Et c'est aussi une manière pour Allah de nous permettre de nous serrer les coudes, de nous dire, ok, c'est les 10 dernières, allez, on se motive tous ensemble, on se redonne de nouveaux objectifs, on regarde où on en est dans nos objectifs, si on a été trop gourmand, pas assez, on rebalance, enfin, on rééquilibre tout ça, on maintient la balance équilibrée et on va regarder ce qu'on peut faire de mieux et on lâche rien, on lâche vraiment rien. Et je vais peut-être te paraître redondante et embêtante avec ça, mais tout comme Yasmine le redit dans quasiment tous ses podcasts, donc Yasmine c'est celle qui tient le podcast Sisterhood in Deen, je le rabâcherai à absolument chacun de mes podcasts s'il le faut. L'importance du bon entourage, c'est dans ces moments-là que le bon entourage est crucial. Si tu es tout seul ou toute seule, bah forcément c'est beaucoup plus difficile de se motiver, de retrouver la motivation, de se dire ouais c'est la fin, mais va falloir que je me bouge. La solution de facilité c'est de se dire ah, vas-y flemme. Mais non, quand t'as une copine qui vient te dire ah non 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 non, on se relâche pas, c'est pas le moment, allez, regarde tout ce qui t'attend, regarde toutes les occasions qui t'attendent. C'est vraiment pas le moment de se relâcher, c'est au contraire le moment où on va se donner à fond. Viens, on va faire des objectifs, viens, on en parle toutes les deux, viens, on fait un groupe. Moi, j'ai des copines qui ont créé un groupe et qu'Allah les récompense grandement, vraiment. Elles savent pas et je leur dis pas forcément. Du coup, si vous m'écoutez à ce moment-là, coucou. Et je suis vraiment très reconnaissante de ce groupe et c'est. C'est le groupe de copines que j'ai toujours rêvé d'avoir, que j'ai jamais eu. Le groupe de copines qui est bénéfique, qui te pousse, qui te tire vers le haut, qui te disent viens, on fait des trucs bien, viens, on fait des trucs sur le sentier d'Allah, viens, on se motive, on fait des maraudes, on va à des conférences, on va au Tarawih ensemble, on parle d'Allah, on parle de religion. Et c'est vraiment le groupe de copines dont j'avais toujours rêvé et qui me fait chaud au cœur d'avoir, en fait. Je me dis, enfin, j'ai mérité, en fait, toutes ces amitiés qui sont tombées à l'eau, qui ont été des ruptures amicales très difficiles pour moi. En fait, bah, j'ai enfin ce que j'ai toujours cherché, ce que j'ai toujours demandé à Allah. Là, enfin, j'ai l'impression de le mériter. Et c'est dans cette optique-là que je te disais tout à l'heure, la patience est importante. Et je me dis que dans l'état où j'étais il y a quelques années, j'aurais pas été bénéfique, moi, pour elle. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'espère que je suis un minimum bénéfique pour elle et que du coup, j'ai ma place au milieu de tout ça. Je suis désolée. Ça fait un peu fleur bleue là, mais je trouve ça important de dire les choses quand ça va bien aussi. Et je suis très 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 reconnaissante envers Allah pour ça, pour cette chance qu'il m'a donnée. Et je parle de ce groupe, mais il y a aussi... Je vais faire un peu toutes mes dédicaces. J'ai une copine avec qui je discute tous les soirs, qui est un de mes piliers pour ma foi. J'ai ma mère qui est un de mes piliers pour ma foi. J'ai mon frère aussi. J'ai certains membres de ma famille qui sont un pilier pour moi, de ce côté-là. J'ai des copines avec qui je discute pas forcément tout le temps, mais qui ont été un booster énorme pour ma foi et dans mon cheminement. Personne ne se fait tout seul. Vraiment, personne ne se fait tout seul. Tout est là par la grâce d'Allah et il nous envoie les uns aux autres pour nous entraider, pour nous tirer vers le haut. Et alhamdulillah, wa shukrulillah, louange à Allah et tous les remerciements. Toute la gratitude va à Allah. Ah oui, d'ailleurs, dans la série des pépites de Salamadan, dans la première partie, je t'avais dit que la récompense du jeûne, seul Allah la connaît. Et ce sera Allah lui-même qui nous la donnera. Elle est tellement grande et énorme qu'on ne la recevra que d'Allah et que lui seul connaît sa récompense. Et cette grande récompense-là, elle peut être partagée. Quand tu nourris une jeûneuse ou un jeûneur, tu as la même récompense que cette personne-là. Tu as la récompense de son jeûne sans que cela n'enlève à sa récompense à lui ou à elle. Ça veut dire que si tu jeûnes et que tu nourris un jeûneur, tu as deux fois la récompense du jeûne. Je pense que tu vois où je vais en venir un petit peu avec les multiplications. Tu jeûnes et tu nourris plusieurs jeûneurs, c'est multiplié par le nombre de jeûneurs. Tu le fais pendant les 10 dernières nuits et ça tombe pendant Laylat al-Qadr, c'est multiplié par 84 ans de jeûne. Et ça, c'est 84 ans plus un jeûne si toi tu jeûnes. Si toi tu jeûnes pas ce jour-là parce que tu ne peux pas, et ben c'est quand même multiplié par autant de personnes que tu as nourries. Et si c'est pendant Laylat al-Qadr, c'est multiplié par 84 ans. Donc ça, c'est vu sur le point de vue de la multiplication, etc. Mais même en dehors de ça, en fait, le fait de nourrir un jeûneur pendant ce mois de Ramadan, c'est aussi une manière pour toi d'alléger ton frère ou ta sœur d'un souci d'ici-bas. Et quand tu soulages un croyant d'un souci parmi les soucis d'ici-bas, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du jour du jugement. Et qui sait, Allahu a'lam, seul Dieu sait, peut-être que c'est ce jeûne-là, ce jeûneur-là, que tu as pu soulager du souci de se dire qu'est-ce que je vais manger, comment je vais manger, est-ce que je vais manger, et d'avoir sa récompense du jeûne, qui est absolument énorme, peut-être que c'est ça qui fera la différence le jour du jugement dernier. Peut-être que c'est ça qui va peser dans ta balance et qui te fera passer le sirat, donc le pont aussi fin qu'un cheveu, plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une lame, de manière à ce que tu puisses atteindre le paradis. Ne néglige absolument aucune action pendant ce mois de Ramadan et encore moins pendant ces 10 dernières nuits, pendant ces 10 derniers jours. Ça, j'espère que c'est ancré dans ta tête maintenant et que la motivation bat son plein. Et que si tu étais démotivé pour la fin du Ramadan, tout ça a pu t'aider à te remotiver, à te remettre en selle et te dire ok, maintenant faut rien lâcher, c'est là que tout se joue. Donc on le voit vraiment que ce mois, c'est le mois de la multiplication. Mais attention, la multiplication peut se faire dans les deux sens. Parce que tu multiplies les bonnes actions, certes, mais les mauvaises actions ont beaucoup plus d'impact aussi. Et ça, il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'on s'évertue aussi pendant ce mois à éviter au maximum les mauvaises choses, les choses qu'on devrait délaisser tout au long de l'année évidemment, mais encore plus pendant ce mois-là. Ça a encore plus d'impact sur notre foi et sur notre balance. Et dernier point important avant de passer à la partie suivante, Inch'Allah, c'est, je voulais un peu t'expliquer ce que c'était Zakat al-Fitr, donc l'aumône de la rupture du jeûne. Donc dans la première partie, je t'avais expliqué que la zakat, donc l'aumône, était le troisième pilier de l'islam. Et zakat al-fitr, elle est spécifique à la fin du mois de Ramadan. C'est une aumône qu'on donne en nourriture. Il y a un hadith qui dit « Nous sortirons l'aumône de rupture du jeûne, un sa de nourriture, ou un sa d'orge, ou un sa de dattes, ou un sa de fromage, ou un sa de raisin sec. » On a un autre hadith qui nous dit, d'après Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, un sa de dattes, ou un sa d'orge, pour le serviteur et l'homme libre, pour les hommes et les femmes, pour les vieux et les jeunes, parmi les musulmans, et il a ordonné qu'elle soit donnée avant la sortie des gens pour la prière. Donc c'est une zakat qui se fait le jour de Eid al-Fitr, donc la fête de la rupture du jeûne, qui signe la fin du Ramadan. Donc c'est une prière qui a lieu le matin. C'est pas une des cinq prières, c'est une prière bien spécifique. Et donc l'aumône doit être faite avant cette prière-là, avant la sortie de cette prière-là. Donc ça peut être fait à partir du maghrib, du dernier jour du Ramadan, jusqu'au moment de la prière. Et le sa, c'est quoi? C'est une unité de mesure qui correspond à 4 mouds. Et un moud, ça correspond à la quantité que l'on peut mettre dans les deux mains lorsqu'elles sont rassemblées. Et donc, à propos de ça d'ailleurs, il y a une divergence entre les savants sur le fait de sortir la zakat al-fitr en argent, si on peut ou pas. Et il semblerait que l'avis correct soit que ça n'est pas valable et qu'il faut la sortir en nourriture. Pour plusieurs raisons, et je te laisserai le lien de la page du hadith qui explique ça, enfin des hadiths qui expliquent ça, en description, encore une fois, inshallah. Et il y a un deuxième hadith à propos de zakat al-fitr qui dit que, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de rupture du jeûne comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et grossières et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière, elle est alors une zakat acceptée, et celui qui la donne après la prière, c'est une aumône parmi les aumônes. Donc elle n'est pas comptabilisée comme zakat al-fitr, elle est comptabilisée comme aumône seulement. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des bêtises. Il est possible de la donner 2 ou 3 jours avant le Eid. Donc là, on a fini, j'espère. Peut-être que je rajouterai quelque chose après coup. Allahu alam. Mais on a fini avec la partie donc des pépites de ce mois de Ramadan. Et j'espère bien que, comme pour moi, ça t'a autant donné envie, en fait, de te surpasser, de te dire « Ok, je lâche rien, c'est le moment de, au contraire, me transcender, de chercher à faire encore mieux, encore plus d'efforts, je vais rien lâcher, on va y aller ensemble, main dans la main, coude dans les coudes. » Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, j'invente l'expression. Enfin voilà, on va y aller, on court vers la réussite et vers la récompense. Une autre pépite, c'est un petit hadith qui est très joli. Donc d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, donc c'est un hadith qudsi. Un hadith qudsi, c'est un hadith qui est une révélation d'Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une parole que dit Allah. Donc Allah a dit, c'est un hadith qudsi. Allah a dit, le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. Il, en parlant du jeûneur, délaisse son envie, sa nourriture et sa boisson pour moi. Le jeûne est une protection et il y a pour le jeûneur 2 joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne
et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et certes, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. Donc, quand il parle de protection, c'est-à-dire une protection contre les péchés d'ici-bas, et une protection contre le châtiment dans l'au-delà. Ensuite, la joie, la première joie quand le jeûneur rompt son jeûne, c'est-à-dire que lorsque le croyant rompt son jeûne, il est content qu'Allah lui ait accordé le bienfait de pouvoir terminer son jeûne, et il est également content de pouvoir satisfaire ses désirs qui lui étaient interdits de satisfaire dans la journée. Et la deuxième joie, lorsqu'il rencontre son Seigneur, c'est-à-dire que le jeûneur sera content d'obtenir l'agrément d'Allah et ses bienfaits. Et enfin, à propos de l'odeur de la bouche du jeûneur, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus aimée par Allah que l'odeur du musc dans la vie d'ici-bas, lorsque le jeûneur manque de nourriture, mais également le jour du jugement, comme ceci est mentionné dans d'autres versions de ce hadith. Et Allahu a'lam.